Un des plaisirs du Bosphore que j'éprouvais à l'époque, où nous allions nous promener tous ensemble en voiture, c'était cela, voir les vestiges d'une époque si riche et révolue, au cours de laquelle la civilisation et la culture ottomane passaient sous influence occidentale, mais sans perdre leurs caractéristiques et leurs forces propres. Ce sont les mots de l'écrivain Orhan Pamuk dans le livre qu'il consacre à Istanbul. Istanbul, souvenir d'une ville, c'est le titre de ce roman. Et on voit bien ici, à travers ces mots, la dualité de cette ville, entre Occident et Orient, sa richesse aussi, du fait de cette position liminale entre Occident et Orient, et le terme même de sublime porte, nom que donna une ambassade française à la ville au XVIe siècle, et qui restera en vigueur dans la diplomatie mondiale jusqu'à une période tardive, sonne alors d'une façon toute particulière. C'est une métropole foisonnante que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui, Vincent Hérail et moi, point nodal de l'Empire ottoman, point d'orgue également d'une construction politique plurielle, fragile aussi, qui entend affirmer sa puissance en faisant de sa capitale une métropole moderne. Une capitale aux noms multiples. Si elle n'est plus Byzance depuis sa refondation par Constantin au IVe siècle, comment l'appeler alors que nous l'abordons au XIXe ? Le gouvernement ottoman utilise encore son nom grec, Constantinople, suivi en cela par tous les étrangers, mais dans le langage courant de ses habitants turcophones, elle est Istanbul depuis longtemps. Pour compliquer encore le tableau, il est fréquent chez les diplomates européens de la désigner sous l'expression « sublime porte ». Nous l'avons évoqué dans l'introduction. Depuis qu'une ambassade française de François Ier était passée sous le portail monumental du palais du vizir et en avait été singulièrement impressionnée. À chaque dénomination correspond une strate de son histoire riche et complexe qui connaît des développements décisifs au XIXe siècle. Capitale d'un empire, elle abrite et fait coexister un éventail étourdissant de populations bigarrées. Elle se modernise, elle se pare de nouveaux lieux de pouvoir qui disent beaucoup de l'influence occidentale qui s'exerce alors sur la civilisation ottomane. Alors, comment s'organise-t-elle, cette capitale? Comment ces populations cohabitent-elles ensemble? Constantinople est une métropole méditerranéenne et ottomane. Elle ne se contente pas d'être turque et musulmane. Elle est un condensé de populations de l'Empire, ainsi que de son organisation sociale et politique. Plus qu'ailleurs, dans les immenses possessions du sultan, la diversité saute aux yeux des voyageurs de passage, qu'enveloppent des dizaines de langues, des centaines de costumes différents, des milliers de lieux de culte de toutes les confessions. En témoigne Gustave Flaubert à son arrivée à Constantinople en 1850. Voici ce qu'il écrit. « J'ai été frappé de cette idée de Fourier. » Qu'elle serait plus tard la capitale de la Terre. C'est réellement énorme comme humanité. Ce sentiment d'écrasement que tu as éprouvé à ton entrée dans Paris, c'est ici qu'il vous pénètre, en coudoyant tant d'hommes inconnus, depuis le persan et l'indien jusqu'à l'américain et l'anglais, tant d'individualités séparées dont l'addition formidable aplatit la vôtre. Ce que ne perçoivent pas les visiteurs, c'est l'extrême raffinement et la complexité des identités dans cette Babel du Bosphore. Si tous les Constantinopolitains sont sujets du sultan, les non-musulmans relèvent aussi d'une communauté, on dit « millet », qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de la vie de tous ses membres. Les Grecs orthodoxes, les Juifs, les Assyriens, les Arméniens forment ainsi des groupes placés sous l'autorité de leurs élites religieuses et laïques respectives qui, toutes ou presque, résident dans la capitale. Les millets disposent d'une réelle autonomie en matière fiscale, religieuse, juridique ou scolaire et assurent une cohésion identitaire et une forte solidarité collective au sein de ces communautés minoritaires en pays d'islam. L'équilibre fragile de cette société est d'ailleurs bousculé au XIXe siècle par le gouvernement ottoman lui-même à l'époque des grandes réformes, les Tanzimates. Dans cet élan réformateur, Abdülmejid Ier proclame en 1856 le rescrit impérial, appelé aussi le Hati Humayun. Le texte, inspiré par le libéralisme occidental, accorde rien moins que l'émancipation aux sujets non musulmans de l'Empire. Leurs cultes sont reconnus à l'égal de l'islam et ils peuvent désormais bénéficier des mêmes avantages que les musulmans. Par exemple, accéder aux plus hauts postes d'administration ou bien servir dans l'armée. Les plus conservateurs ont des difficultés à accepter que le commandeur des croyants accorde de telles largesses à des infidèles et comprennent mal l'esprit de ces réformes qui consistent à construire une nation ottomane par l'égalité des droits et des devoirs tout en respectant les particularités de chacun. Le processus de modernisation marque aussi plus visiblement la capitale de l'Empire, qui est à la fois une grande métropole en croissance et puis la vitrine du pouvoir du sultan. L'influence occidentale vient modifier les paysages urbains, comme les habitudes de vie de ses habitants. Les Ottomans de retour d'Europe, comme Mustapha Reshid Pacha, ambassadeur 3 ans durant à Paris, rêvent d'une ville aux rues rectilignes, aux immeubles de pierre, aux quartiers organisés autour de vastes places, plus conformes à la dignité d'une métropole moderne. Leurs vœux ne sont que très partiellement exaucés parce que il est difficile, en fait, de reconstruire une ville sur elle-même. Et c'est souvent à l'occasion d'un incendie ou bien d'un tremblement de terre que certaines zones sont rénovées à l'occidental. La rénovation urbaine est plus spectaculaire dans le quartier européen de Péra et Galata, au milieu du siècle. Une commission municipale expérimente le pavage des rues, la construction de trottoirs, l'installation de l'éclairage public au gaz. De manière plus diffuse, le décor urbain évolue lentement au fur et à mesure de l'introduction d'éléments modernes. Les horloges viennent dire un temps nouveau, bien différent de celui des muezzins. Les banques, les grandes sociétés se regroupent pour former des quartiers d'affaires cossus. Les grands hôtels accueillent la clientèle internationale la plus exigeante, qui fréquente aussi les théâtres, les grands magasins, à peine sortis de terre. Les transports publics, les plus modernes, unifient un espace urbain particulièrement morcelé par la topographie, en fait, hein, la Corne d'Or, le Bosphore. On a notamment des lignes de bateaux à roues qui offrent un service régulier entre rives européennes et rives asiatiques dès la fin des années 1830. Et il faut vous imaginer justement ce paysage, il faut vous imaginer ce Bosphore sillonné par les embarcations, en témoigne notamment ce tableau que vous découvrez ici, ce tableau de Ziem. Alors, il faut évoquer en quelques mots Ziem, qui est un peintre assez particulier. C'est un peintre originaire de Bourgogne, mais ses racines bourguignonnes sont le fruit du hasard. Son père était un cavalier croate, séduit par la Bourgogne lorsqu'il la découvre en 1814, pendant la campagne de France, à l'occasion de la guerre menée par la 6e coalition contre l'Empire français. Et donc Ziem naît en Bourgogne, à Beaune plus exactement, et c'est un peintre très particulier parce que c'est un peintre très cosmopolite qui a des attaches beaucoup plus larges. Il parcourt l'Italie, la Turquie, il va même jusqu'en Inde. Et ce périple, il le débute à 20 ans. À 20 ans, Ziem quitte la Bourgogne, il se destinait alors à une carrière d'architecte, et il part à la découverte du Midi. Et c'est là, véritablement, que naît sa vocation de peintre, et les navires qui sillonnent le port de Marseille jouent sans conteste le rôle d'un révélateur dans cette envie de voyager. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'Empire ottoman, donc c'est le goût de Ziem pour cet Empire ottoman qui retiendra notre attention. C'est un espace qui le fascine et de fait il va consacrer de nombreuses œuvres à Istanbul, des œuvres dans lesquelles la matière se désagrège sous les effets de la lumière. Gautier disait de ses œuvres, je le cite, « D'instinct, il choisit le point de vue particulier, l'effet rare, leur caractéristique, la couleur étrange et spéciale. » Sa vérité a quelquefois l'air d'un paradoxe, mais elle n'en est pas moins exacte. Et sur le fond réel de la nature, il fait chanter comme un chœur aérien les mélodies de la couleur. Et effectivement, Gautier a tout à fait raison, il y a un corps à corps avec la matière. Chez Ziem, c'est une matière alésée de clarté, littéralement, que de nombreux critiques apprécient, comme Gautier donc, que d'autres lui reprochent. Néanmoins, à l'époque, donc tournant du 19e et du 20e, Ziem est un artiste adulé et ses œuvres de fait se vendent comme des petits pains. Alors, l'œuvre que je vous présente ici, c'est Constantinople, le caïque de la sultane. C'est une œuvre réalisée entre 1880 et 1890 et conservée au Petit Palais, à Paris. Le caïque, c'est un bateau mené par des rameurs et on le voit, ce bateau, quitter Constantinople. On reconnaît la coupole de Sainte-Sophie à l'arrière-plan. C'est une vision idyllique que cette embarcation, à l'avant de laquelle on observe méduser une danseuse dont les voiles tournoient et qui s'offre à la vue de cette sultane. C'est une ville sillonnée, je le disais tout à l'heure, c'est une ville sillonnée par des tramways. Il y a des tramways hippomobiles qui circulent dès 1871 dans les grandes artères qui ne cessent de s'élargir. Le chemin de fer pose ses gares au pied du palais de Topkapi, où l'Orient Express a son terminus à partir de 1889, ou à Üsküdar, sur la rive asiatique, où débute la fabuleuse ligne du Bagdad-Ban, construite par des capitaux et des entreprises allemandes à partir des années 1900. Dans cette ville modernisée, les habitants se mettent au diapason sous la vigoureuse impulsion des sultans, convaincus que l'apparence vestimentaire dit beaucoup des engagements idéologiques. Comme l'écrit Jean-François Solnon dans son livre « Le turban et la stambouline », le costume, je le cite, « le costume et l'apparence extérieure ne sont pas toujours affaire de frivolité. Parfois, ils affirment un engagement politique. Parfois, ils marquent la soumission obligatoire au pouvoir de nouveaux maîtres ou un modèle inédit de civilisation. » Alors, il y a un peu de tous ces processus dans l'évolution que connaît le costume ottoman à Constantinople, puis dans l'Empire, à partir des années 1820. Être un réformateur suppose de délaisser la tenue traditionnelle qui était constituée du turban, de la grande robe, du large manteau et des babouches. En témoigne ce portrait peint par Pierre-Désiré Guillemet. Pierre-Désiré Guillemet, c'est un artiste lyonnais. Il naît à Lyon en 1827, il meurt à Constantinople en 1878. C'est un artiste quelque peu oublié aujourd'hui. Il a étudié à l'École des Beaux-Arts de Lyon, puis à l'École des Beaux-Arts de Paris. C'est un peintre à l'époque connu et reconnu, qui expose régulièrement au salon. Et dans les années 1860, il s'installe à Constantinople. À Guillemet, artiste français, peintre du sultan Abdulaziz, revient l'honneur de la première académie de peinture fondée à Constantinople, écrit le critique d'art levantin Adolphe Talasso, fondateur également de la Revue Orientale. Guillemet est donc loin d'être un simple quidam. Alors le voici, ce portrait du sultan Abdulaziz, il est réalisé en 1866, et voici ce qu'on donne comme mission à Guillemet. Monsieur Guillemet peintre est chargé d'exécuter, pour le compte du ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts, et moyennant la somme de 4000 francs, imputable sur le crédit des ouvrages d'art et décoration d'édifices publics, le portrait en pied du sultan Abdulaziz. Voici la mission, telle qu'elle est formulée, qui est confiée à Guillemet. Alors, soyons attentifs à l'iconographie. C'est une iconographie qui nous est familière parce que ce sont des codes occidentaux. Le souverain est vêtu à l'européenne, debout, coiffé d'un fez, dans la pénombre, et non assis, comme le voulait l'iconographie traditionnelle. Bref, on a ici une représentation moderne, à l'image du règne qu'il entend promouvoir. Une ouverture laisse entrevoir un ciel clair, et l'on voit les murs gorgés de lumière de la mosquée. C'est un choix du portraitiste. Guillemet se confiait ainsi au comte de Nieuwerkerke, en mars 1864. « Je serais heureux, dit-il, d'avoir le choix de le peindre en pied. » J'aurais aussi, en plus, toute la latitude de l'entourer de ces riches accessoires qui, par eux-mêmes, ajoutent beaucoup au caractère oriental. Alors, c'est aussi un choix du souverain qui valide le choix de la posture, mais qui gomme tout caractère oriental, ce que déplorera d'ailleurs plus tard Guillemet. Donc, les Ottomans se tournent vers des codes vestimentaires occidentaux, à commencer par les fonctionnaires qui se voient imposer d'arborer pantalons, bottines, fez et stambouline. Une redingote créée donc spécialement à leur intention. Peu à peu, cette mode du costume à l'occidental se diffuse dans la société, aux grandes dames des traditionalistes pour qui le musulman se doit de porter un turban. D'ailleurs, des résistances se font jour dans les quartiers religieux de la rive asiatique où le turban tient la dragée haute aux fez jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les sultans du XIXe siècle affichent leur credo modernisateur jusque dans leur demeure. Ils fixent dans la pierre de leur nouveau palais leurs ambitions pour l'Empire. Accepter l'influence européenne sans perdre l'identité ottomane, s'adapter sans se perdre. Le visage de Constantinople en est durablement modifié, le centre du pouvoir se déplace et change sensiblement d'apparence. Le vénérable palais de Topkapi, résidence officielle du grand seigneur, en surplomb de la mer de Marmara et de la Corne d'Or, est délaissé progressivement au XIXe siècle au profit de résidences bâties sur les rivages du Bosphore. À son architecture de pavillon, au style disparate, disséminé dans de vastes jardins qui évoquaient les tentes d'un camp nomade, entouré de murailles et de tours le séparant du reste de la ville, les sultans préfèrent désormais des palais à l'européenne, au plan massif, parfois sur plusieurs étages, aux façades imposantes et ouvertes sur l'extérieur. Il n'est que d'observer la résidence que Abdul Messid Ier fait construire entre 1842 et 1853, le long du Bosphore. Dolmabahçe est l'œuvre d'une famille d'architectes arméniennes, les frères Dalian, dont certains ont été formés en France auprès de l'architecte Henri Labrouste. Les frères Dalian étirent autour d'un corps central monumental des dépendances plus basses et font le choix d'un style composite mêlant rococo et néoclassique. Les frontons, les colonnes, les moulures des façades abritent des intérieurs où le cristal de bohème reflète la grande coupole du salon des cérémonies. L'architecture ne scelle plus le pouvoir du sultan aux yeux de ses sujets, mais l'affirme et le proclame hautement par la pierre et les matériaux précieux. Cependant, il faut bien se garder d'imaginer que les architectes ottomans se contentent de singer un modèle étranger sans l'adapter aux traditions locales. Les sultans, et notamment Abdulmecid Ier, sont bien trop sensibles aux symboles pour le tolérer. Moderniser la forme du pouvoir, oui, mais sans oublier la grandeur de l'Empire et de ses traditions. Et Dolmabahçe accueille ainsi une mosquée, une série de jardins, un harem, dans la partie privée de l'ensemble palatial, à l'opposé de la porte d'entrée principale. Alors, tout un tas de palais sont bâtis sur ce modèle, le long du Bosphore, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et même le palais de Yildiz, qui renoue pourtant avec l'architecture de pavillons derrière de hautes murailles, affiche une esthétique éclectique déroutante pour les visiteurs. Jardin à l'anglaise, pavillon néoclassique ou art nouveau cohabitent dans une fusion stylistique entre Orient et Occident. Belle conclusion que cet amalgame architectural qui résume à lui seul le rêve périlleux des quatre derniers sultans de l'Empire ottoman, accepter l'influence étrangère, synonyme alors de modernité, sans perdre le fil de la prestigieuse tradition inaugurée au XVIe siècle par Soliman le Magnifique et transmise de génération en génération depuis lors.